Il y avait devant soi une autoroute 5 voies, 0 virage, on va tout droit, même pas besoin de regarder, le GPS va nous guider. À voix haute, il saura nous dire où aller et comment conduire, on connaît le début et la fin, on sait comment sera demain. Pas d'hésitation, pas de questions, il n'y a qu'à suivre les indications, d'où je viens, qui je suis, où je vais, pas de doute que des vérités, ici la route est balisée. Je sais, ça fait un peu mouton, à force on devient un peu con, mais on dort mieux dans les bouchons. Peut-être, mais moi, ça me va pas. L'itinéraire me convient pas. Pardon, je m'y reconnais pas. De loin, je vous regarde rouler. Sur le côté, je me suis garée un peu à gare. Je vous laisse filer. Fait un peu noir, fait un peu froid. J'y peux rien. Ne m'en veuillez pas. Mais je vais prendre le chemin de traverse, là où on roule, en sens inverse. Sens interdit. Oui, ça transgresse. Ces jolis plans préétablis. Je prends le risque de vous tourner le dos. Mais c'est ça où j'y laisse ma peau. Cette peau-là, moi, ben j'en veux plus. Je suis née avec. Elle me plaît plus. Je préfère le saut dans l'inconnu. Fait noir et froid, ouais, au début. Mais la fin, je vais me l'inventer. Demain, je vais me le dessiner. Qui je suis, où je vais, je sais pas, mais c'est moi qui vais décider. On m'a dit fille, je suis garçon. On m'a dit garçon, je suis fille. Et ça, que vous le vouliez ou non, va bien falloir que vous l'entendiez. Et si je brouille l'itinéraire, à votre tour, interrogez. De ma différence, faites une chance, celle de secouer l'existence. N'ayez pas peur, venez avec moi. Parfois, c'est le chemin de traverse qui donne le courage d'être soi.
France Inter. Julia Foyce. Pas son genre.
Bonsoir, bienvenue dans un passant genre un petit peu spécial ce soir, très exceptionnellement. Nous ne sommes pas en direct, ouais. Car parfois, on a envie d'appuyer sur pause, s'extraire du rythme effréné de l'actualité, prendre un peu d'air et puis surtout le temps de rencontrer celles et ceux qui l'animent, qui l'incarnent, cette merveilleuse planète du genre et des sexualités. Unique en son genre, c'est le nom de cette série d'entretiens qu'on a le plaisir de lancer avec vous, Bo van Spielbeek. Bonsoir.
Bonsoir Julia.
Vous êtes journaliste et grand reporter pour la télévision flamande VTM. Vous êtes aussi devenu, depuis près de 2 ans, une figure de la lutte pour les droits des personnes transgenres. Et dans ce livre, « Comment je suis devenu beau », vous racontez comment, né homme, vous êtes devenu femme, ou plutôt, né femme dans un corps d'homme, comment vous avez peu à peu adapté votre enveloppe à celle que vous étiez. On va l'ouvrir, ce livre. On va le refaire, ce chemin, avec vous. Mais d'abord, hop là, tenez, miroir. Voilà. Parce que vous êtes tous uniques en votre genre, je vais vous demander avant toute chose de vous décrire. Que voyez-vous, beau ? Qui voyez-vous dans ce miroir ?
Mais tout d'abord, je crois que je vois une femme heureuse, qui est enfin elle-même et qui paraît peut-être plus jeune aussi. J'ai 60 ans.
Ah oui,
et dans le taxi, le taximan me disait, on m'avait dit que je devais prendre une dame de 60 ans, mais vous n'en paraissez pas 40. Donc ça m'a fait
et
plaisir.
Et ça flirte dans les taxis, on en a parlé. Et voilà. D'accord, donc une femme heureuse, une femme jeune, plus jeune en tout cas que ce que vous n'êtes à l'état civil, donc vous déjouez les pronostics à tous les niveaux. S'il y avait un petit détail qui pouvait faire mauvais genre chez vous, votre petit côté canaille, beau, ce serait quoi ?
Un petit côté canaille, oh.
Une petite transgression, une petite provocation.
Ben les provocations, c'était avant, hein. Avant ouais. Ma transition, quand je revois les vêtements que je mettais, robe panthère, chaussures.
Oui, vous aviez un look beaucoup plus extraverti aujourd'hui.
À l'époque, hein, mais je crois que c'est un peu comme les jeunes filles quand elles sont dans leur puberté, elles essayent de tout. Moi aussi. Mais j'aime toujours les talons, quand même.
Ouais. Là, voilà. Vous en portez. Ils sont pas vertigineux, mais vous
non,
savez faire,
hein,
marcher avec
voilà.
Des talons
oui,
doux,
oui.
Ça c'est bon. Vous avez un cardigan noir, vous avez un foulard imprimé Python. On est dans le sobre et chic. Ça vous va comme ça?
Ça me va comme ça, oui.
Alors lui, il est le mauvais genre à lui tout seul, mal peigné, mal rasé, voix de fumeur, ton hâbleur, toujours un brin provocateur. Arnaud, qui nous embarque du côté de chez vous, beau, à Ostende, côte flamande. Ostende,
super.
On se balade de bar en bar, surtout le soir, surtout quand il fait noir.
On se promène comme tous les soirs. On se dit rien. On va de bar en bar. Ça rime à rien. Comme tous les soirs. Je suis seul avec toi. Au stand, bonsoir. Spéliale allume la digue. Comme tous les soirs, aux couleurs nostalgie, aux couleurs désespoir. Il nous peint les marées, le ciel et nos regards. Je suis seul avec toi. Ostend, bonsoir.
Arnaud Ostend, bonsoir, bonsoir à vous. Et ce soir, sur France Inter, on se raconte des histoires avec ce qu'il faut de début bordélique, de parcours chaotique, de happy end télégénique. La journaliste Bo Van Spielbeck fait le grand saut dans le grand bain de nos entretiens jusqu'à 21h, unique en son genre. C'est elle, c'est nous, c'est vous, évidemment.
Pas son genre.
Bo, s'il y a une date clé dans votre vie, c'est bien celle du 29 janvier 2018. Pour la toute dernière fois, vous allez apparaître en homme sur l'écran de télé de ceux qui vous suivent depuis des années maintenant. La chaîne VTM a consacré un reportage à votre transition. On va en diffuser un extrait où les questions, notamment de votre épouse et de vos deux enfants. Je vais vous demander de le traduire en simultané pour les auditeurs de France Inter. Est-ce que vous êtes d'accord ?
D'accord, je mets le casque là.
D'accord et prête. Alors on y va.
Et bien sûr, ça a été très très difficile d'accepter que son mari devienne une femme, que son papa devienne une femme. Ma femme savait depuis avant notre mariage que j'avais des sentiments féminins. Mais ce n'est qu'il y a peu de temps qu'elle a vraiment compris que je voulais devenir femme. Alors que, en fait, c'était en moi depuis si longtemps. Mais que je l'avais plus ou moins repoussé. Mais il y a un sentiment de vouloir y aller ensemble et on veut que ce soit un succès, que ça réussisse. Et le moment le plus remarquable est probablement lorsque ma fille, lors de la fête de Noël, alors que j'étais là en homme, m'a pris dans ses bras et m'a dit « Papa, vas-y, tu es plus jolie en femme ».
Alors vous racontez ça au micro de la chaîne VTM pour les téléspectateurs flamands. Pour eux, à ce moment-là, oui. Qui êtes-vous ?
Ben à ce moment-là, je suis un journaliste de 58 ans, cheveux gris, costume cravate, très sérieux, qui a un peu bourlingué le monde. J'ai fait la Somalie, le Rwanda, le Burundi, la Yougoslavie, l'Afghanistan, l'Ukraine. Je me suis occupé d'astronautique, d'aéronautique.
Vous êtes aussi spécialiste des questions de défense. C'est
défense,
pas totalement
voilà,
un hasard ce choix-là. C'est-à-dire que vous êtes allé dans le plus viril possible.
Oui, et c'est quelque chose que je vois d'ailleurs avec d'autres transgenres. Ou bien c'est une sorte de compensation chez certains, ou bien c'est une sorte de camouflage. Ou c'est les deux. Ouais. Et je crois que chez moi c'était comme ça. Je me suis aussi amusé à me mettre sous l'aile d'un biplan en vol, un vieux biplan. Et faire des tonneaux, donc des choses que d'autres ne faisaient pas. Et donc voilà, les gens ne me connaissaient pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que les gens qui me connaissaient bien, mes amis, savaient que j'avais ça, parce que ça faisait 30 ans que je sortais en femme.
Bien sûr. Mais pas le grand public, en tout cas.
Mais pas le grand public.
Alors officiellement, vous êtes aussi le mari de Marianne, et depuis plus de 30 ans, ça, le père de Michel et de Nicolas, vos deux grands-enfants. Un homme donc heureux. En
heureux,
apparence.
Certainement, oui.
Sauf que vous avez l'impression, je vous cite, d'aller tous les jours à un bal costumé. Dans vos vêtements d'homme, dans votre enveloppe d'homme, vous vous sentiez déguisé à ce moment-là ?
De plus en plus. Peut-être pas il y a 30 ans, mais les dernières années, vraiment, c'était de plus en plus difficile. D'ailleurs, les vêtements que je portais à la rédaction, j'avais des jeans de femme, j'avais des petites vestes de femme au lieu de veston. J'avais toujours un veston et une chemise et une cravate. Dans la voiture ou j'avais une armoire à la rédaction, mais je mettais des blouses plutôt que des chemises. J'avais des bottes avec au début des talons de 2-3 cm et tout à la fin c'était 8 cm.
Oui.
Et je mettais même du vernis à ongles transparent, du mascara, parfois, pas tous les jours. Mais donc, et quand je devais aller à une fête de famille ou à l'anniversaire d'un ami et que je devais vraiment m'habiller en homme, c'était du déguisement, c'était vraiment du camouflage.
À 58 ans, vous décidez de franchir le pas. Femme, vous vous sentez femme, vous serez. Au moment de votre coming out, votre transition a en fait démarré depuis quelques mois déjà. Tout cela, vous le racontez dans un communiqué transmis par VTM juste après le reportage qu'on a entendu. Et dès le lendemain, vous êtes assailli de demandes d'interview. Vous voilà par exemple dans le JT de la RTBF.
Cheveux mi-longs, tailleur noir. Pour la première fois de sa vie, Boudewijn van Spilbeek vient travailler habillé en femme. Désormais, il, ou plutôt elle, s'appellera Bo. Depuis ce matin, elle enchaîne les interviews.
C'est la folie, c'est un tsunami médiatique. Hier, quand on a lancé la nouvelle, sans image, donc seulement une image de moi en homme, je pensais pas que ça allait donner ça, mais dès hier soir, c'était surtout les sites internet, même celui de la RTBF, même des sites hollandais, et partout des réactions super positives.
Les réactions positives que vous évoquez, Bo, ce sont notamment celles de vos employeurs et de vos collègues qui tous, et c'est très très rare, donc ça, soulignons-le quand même, tous vous ont soutenu du début jusqu'à la fin, au point de l'orchestrer, ce tsunami médiatique. En fait, il y a un vrai plan de com' qui s'est mis en place, qui a été longtemps préparé en amont, mais pourquoi ?
Mais parce que, justement, ça faisait 30 ans que je passais à l'antenne. Les gens me connaissaient et on y a longuement réfléchi. Et puis, on s'est dit, ça va pas d'aller... La semaine avant, j'étais encore à Barcelone pour la question catalane. Et tout le monde s'est dit, ça va pas que subitement je sois là, une femme aux cheveux blonds, maquillée. Donc il fallait au moins une sorte de petite transition et on a seulement donné 12 heures aux téléspectateurs puisque j'ai fait mon annonce le soir dans le JT et le lendemain matin j'étais en femme à la rédaction et bien sûr les photos ont été mises en ligne dès le matin.
Mais est-ce que c'était parce que déjà vous aviez envie de jouer en quelque sorte un rôle de modèle pour toutes les personnes transgenres, parce qu'à l'époque vous êtes la première personne quand même, il faut le dire, la première personnalité publique à faire le grand saut et à le dire en tout cas. Est-ce que ce plan de com' c'est pour ça aussi ?
Non, parce qu'en fait, j'ai dit que je pensais pouvoir être un modèle, mais pas à cette échelle-ci. Mais c'est tout simplement parce que je pouvais pas le faire en catimini, en cachette, faire ma transition. Je pouvais pas le faire non plus doucement, c'est-à-dire évoluer lentement d'un personnage masculin jusqu'à être une personne tout à fait féminine. Donc ça devait vraiment, il fallait une césure, il fallait que ce soit du jour au lendemain.
Ouais.
Et là, on a longuement réfléchi à comment on allait faire ça. Au début, moi, je voulais juste un petit texte de 20 lignes et une photo, c'est tout. Et on a terminé avec un doc de 45 minutes.
Ce que vous racontez dans le livre est hallucinant. Rien n'a été laissé au hasard, donc ni les cheveux mi-longs, ni le tailleur noir. C'est une tenue que vous avez choisie avec soin, avec les équipes de VTM notamment. Mais vous n'êtes pas arrivé avec ce matin-là à la rédaction. Ça va être le premier jour où vous apparaissez à l'écran. Enfin, mais pourtant, vous arrivez à la rédaction habillée en homme. Vous le racontez très bien, ce moment-là, dans votre livre. On a l'impression d'un rituel, d'un cérémonial, presque d'un enterrement grand luxe pour l'homme que vous étiez. Est-ce que c'est ça?
C'était très particulier, étant donné que, bon, ce jour-là, j'allais... je savais que j'aurais des télés, mais je savais pas que j'allais en avoir autant, mais je savais qu'il y avait des photographes qui seraient là. Donc, on avait convenu avec les stylistes et le chef styliste et avec les maquilleurs ou maquilleuses que j'allais me faire maquiller. J'avais mes vêtements avec moi, on avait fait un choix, on savait très bien ce que j'allais mettre. Je voulais absolument mettre un pantalon et pas une jupe, parce que je voulais là aussi transgresser les clichés et les codes. Et je voulais que ce soit classe, mais sérieux, business. Et pour le maquillage, je me disais, bon, je pourrais déjà me maquiller, mais certainement à l'époque, je pense que je me maquillais moins bien que maintenant. Et puis je me suis dit, non, ça sert à rien de devoir me maquiller à 5h du matin pour faire juste le trajet en voiture, pour me faire démaquiller, remaquiller professionnellement à 7h30. J'ai fait le trajet, effectivement, pour la toute dernière fois en homme. Il y avait presque personne. J'ai mis ma voiture dans le garage souterrain. Et puis, furtivement, je me suis installé dans une loge, je me suis changé, le maquilleur Cédric, qui est un artiste vraiment, m'a tout à fait maquillé, et puis ça a commencé, et là, j'allais faire deux radios dans la matinée, et avant d'avoir fini le maquillage, j'avais déjà fait 6 interviews radio.
Hallucinant. Et là, vous continuez. Cette femme aux cheveux mi-longs et en tailleur noir, d'où est-ce qu'elle vient, Beau? Qui ont été les modèles féminins qui vous ont construite ou inspiré?
Il y en a tellement, hein, parce que il y a bien sûr si je vais voir très loin, il y a les modèles inaccessibles, les femmes élégantes, classe. Je pense à une, et je sais que c'est vraiment tout à fait inaccessible pour moi, mais des femmes comme par exemple Catherine Deneuve en France, ouais, comme Jane Fonda aux États-Unis.
Avec ses yeux noisettes
à ma jeunesse.
Vous inscrivez dans cette lignée-là.
Oui,
ouais.
Il y a eu évidemment les transgenres qui ont été des modèles que j'ai vu évoluer, mais qui là aussi étaient chaque fois beaucoup plus jeune que moi.
Et enfant, qui étaient les femmes autour de vous?
Il y avait relativement peu de femmes. J'ai un frère, j'ai pas de sœur. J'allais dans un collège de garçons. Actuellement, en Belgique, je crois que toutes les écoles sont mixtes, mais à l'époque, pas. Donc, quelles étaient les femmes dans ma vie? Ma mère. Et là, il y a certainement de quoi... pour les psychologues, il y a certainement des éducations.
Vous racontez une scène qui est très jolie, qui est votre tout premier souvenir. C'est votre mère qui étend le linge dehors, dans la cour. Qu'est-ce qu'il raconte, ce souvenir-là, pour vous?
C'est très diffus, hein. Ce n'est pas très clair, mais c'est déjà, je crois que déjà là, hein, moi j'avais un petit tricycle parce que j'étais tout jeune, et je crois que déjà il y avait cette envie de, cette image de la femme, de la mère, avec peut-être aussi les tâches qui sont très clichés aussi, que faisaient les femmes au début des années 60, hein, parce que on parle d'il y a, près de 60 ans.
Mais justement,
ma mère était une femme au foyer, ouais.
Donc l'image que vous renvoyez vos parents, des femmes et des hommes, c'était finalement un schéma assez classique, assez traditionnel.
Et des cousines qui habitaient un peu plus loin, ouais, qui avaient mon âge environ.
Et votre père, c'était quel genre d'homme? Est-ce que lui, vous en parlez peu dans le livre?
C'était un homme qui travaillait beaucoup, donc qui était beaucoup absent. Et là aussi, de nouveau, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « père absent », je ne sais pas. Mais avec qui j'avais quand même une bonne relation, et qui m'a surtout... formé au niveau culturel,
ouais,
parce qu'il était fort intéressé par l'art et l'histoire, ouais. Et si aujourd'hui je suis toujours intéressé par l'art et l'histoire, et si, ouais, d'ailleurs la relation avec Marianne est si bonne, c'est parce qu'elle aussi s'intéresse à tout ça, entre, ouais, autres à la culture française. Nous sommes vraiment férus de culture française. C'est le pays de nos vacances, et nous passons nos vacances à visiter des châteaux, des cathédrales, et à se raconter l'histoire de France. Je crois qu'on la connaît mieux que beaucoup de Français. Et ça c'est mon père.
Ça, c'est votre père.
Absolument. Ouais.
Enfant, vous êtes élève d'une école catholique. Le soir, en rentrant chez vous, vous regardez le Club des Cinq.
Demain, nous irons tous dans l'île faire un pique-nique avec votre oncle Henri.
Super!
Où est Claudine, tante Cécile? On meurt d'envie de la voir.
Je ne sais pas où elle est. Cette pauvre Claude a une mauvaise habitude, celle de disparaître à tout bout de champ.
Pourquoi tu l'appelles Claude?
Elle préfère.
Mais moi, je trouve que c'est un nom de garçon.
C'est ce qu'elle aurait voulu être.
Ça me plairait pas. Moi, je me trouve bien comme je suis.
Oui, mais pas elle.
Alors cette Claude, Claudine, qui aurait voulu être un garçon et que vous mentionnez dans votre livre, Beau, est-ce que c'est finalement le premier personnage transgenre de la littérature enfantine?
Je crois que...
Il y a quand même disons, de ça un peu, non?
Moi j'ai surtout lu les livres, et en français d'ailleurs, dans la bibliothèque rose. Déjà là aussi, parce que j'aimais pas la bibliothèque verte, j'aimais la bibliothèque rose. Ouais. Mais l'auteur, l'auteuse, on dit aujourd'hui, Enid Blyton, a probablement voulu une sorte de garçon manqué, tomboy. Ben c'est à l'origine, c'est des livres anglais, et en anglais, je crois qu'elle s'appelle Georgina et que tout le monde l'appelle George. Mais moi, je les ai lus en français, donc avec Claude et avec Annie, parce que je crois que c'est Annie qu'on entend là. Et je m'identifiais à son personnage. Or, c'était une fille, mais je crois que là aussi, l'autrice la mettait un peu en avant. C'était celle qui sortait un peu du lot,
évidemment.
Mais déjà par sa façon de faire. Mais moi, j'aimais ça, ce côté entre les deux, mais sans comprendre et sans me rendre compte de ce que ça pouvait signifier.
Quand est-ce que vous vous en rendez compte? Quelle est la première fois où vous vous dites « en fait, je veux être une fille », voire « en fait, je suis une fille »
C'est une question qu'on m'a posée déjà très souvent, et vraiment mettre une date là-dessus, c'est difficile.
Ouais.
Mais je me rends compte que dès le secondaire, je me mets à jouer des rôles de fille. Quand on faisait des
pièces de théâtre.
On allait très souvent, on a été une série de fois, faire des spectacles dans des maisons de retraite avec la classe. On avait une classe très active. Et là, moi, je faisais les rôles de filles. Et personne ne se posait de questions. Ouais. Donc, en fait, c'est ça, c'était assez naturel. Moi, je ne me posais pas de questions, et mes camarades de classe non plus.
Ouais.
Et c'était comme ça. Ce n'est que après. En fait, je pourrais dire peut-être vers 17-18 ans.
C'est ça. C'est-à-dire que l'adolescence, c'est quand même un âge clé où on se détermine par rapport à l'autre sexe notamment, parce que c'est l'âge des premières fois, de toutes les premières fois. Vous vous racontez qu'à ce moment-là, vous êtes à la fois attiré et repoussé par la féminité. Mais c'est-à-dire, ça se traduit comment?
D'un côté, je suis attiré par la féminité, puisque je sens que j'ai ça en moi. Mais d'un autre côté, je me rends compte que ce n'est pas la norme, que c'est un peu hors norme et que c'est pas correct. J'ai grandi dans un milieu bourgeois, aisé, à l'époque surtout, les personnes transgenres étaient, enfin, il y en avait, hein.
Puis le mot n'existait pas.
Les premiers noms que j'ai entendus, c'est des gens comme Coccinelle et Bambi, qui étaient danseuses nues dans un cabaret à Paris.
Donc en plus, c'est des marginaux, c'est des artistes, c'est une planète à part, quoi.
Voilà. Et moi, je voulais devenir... qu'est-ce que j'ai voulu devenir? Vétérinaire, architecte...
Et ça, à l'époque, des architectes transgenres ou des vétos transgenres, il n'y en avait pas encore.
J'en connais, hein.
Ouais.
Je connais une architecte transgenre qui est très sympa, d'ailleurs. Je me dis, non, ça va pas. Et je n'avais aucune référence, à part ces exceptions quand même, qui pouvaient me dire « oui, ça va », puisqu'il n'y avait pas l'Internet. Et il n'y avait presque pas de livres. Donc, je crois
être
seul.
Est-ce que vous tombez amoureux, adolescent? Ou est-ce que du coup, ce trouble-là vous freine dans vos relations amicales et amoureuses?
Ça m'a absolument freiné, et ça, je m'en suis rendu compte. J'ai eu deux relations avec des filles... Et je me rends compte par après que c'était très platonique et que ça, c'était vraiment une sorte de handicap. C'était un obstacle entre nous. Et puis avec Marianne, et là aussi c'est le théâtre. Hein,
et là on va effectivement raconter cette très belle page de votre vie qui s'ouvre à ce moment-là en rencontrant Marianne. Mais dans votre chambre d'ado, Beau, à ce moment-là, vous vous enfermez, vous vous laissez aller, vous dansez, vous écoutez Bowie, vous admirez Abba. En secret, vous aimez ceux qui osent fouler au pied l'idée d'une certaine virilité. Alors en cuir clouté ou en moto de fourrure, évidemment, Queen vous fait rêver.
She keeps them away, Chandon, in a pretty cabinet. Let them make cakes, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, got fine identity. Beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China. Then again, incidentally, she's that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class. She's absolutely dry. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try?
Killer Queen, avec la présence presque chamanique de Freddie Mercury. On est en 1974. Vous êtes où, vous, Beau, à ce moment-là? Où êtes-vous quand vous entendez, par exemple, ce morceau-là?
Ah ben, je crois que je l'ai vu et entendu en même temps dans une émission à la télévision hollandaise, qui était assez populaire chez nous, qui était un peu une copie de Top of the Pops à la BBC. Et voilà, ça m'avait frappé, la voix d'abord, mais surtout l'apparence, des longs cheveux vraiment qui avaient été brochés, du rouge à lèvres, ouais. Du vernis à ongles noir, un manteau de fourrure, vraiment des clichés féminins.
Et l'ado qui voit ça se dit quoi?
Oui, se dit qu'est-ce que c'est que ça, ouais. Tout d'abord, et puis on se dit il y a quand même des gens qui transgresse les codes, ouais. et ça m'a fasciné, mais évidemment à ce moment-là je n'ose pas encore, mais ça m'intéresse, ça me fascine, et puis je vois que Queen évolue parce que c'était leur premier grand succès, et puis après il y a eu le méga succès, ouais. Bohemian Rhapsody, qui reste une des chansons les plus phénoménales de toute l'histoire de la musique pop et rock, et puis je vois un peu plus tard, qu'ils ont une chanson où ils sont tous déguisés et là je dis déguisés parce que chez eux c'est des déguisements. C'était dans un foyer britannique et on voyait Freddie Mercury en mini jupe en vinyle noir, en train de passer l'aspirateur, mais avec sa moustache, parce qu'il avait une moustache à l'époque. Et là, ça m'a tout à fait choqué. et là, c'était l'aspect purement féminin, oui. Mais là,
mais la moustache, c'est pas possible.
C'était trop.
La suite est celle qui vous mènera de la femme de votre vie, Marianne, à celle que vous êtes aujourd'hui. Vous allez nous la raconter ce soir sur France Inter. Avec nous, à la technique, l'excellent Fabrice Desmas qui s'est pimpé pour vous. À la réalisation, Marianne Crimbois, à la programmation, à la coordination, Romy Engels. Voilà, vous savez tout, ou presque. Alors on peut y aller.
France Inter, passons genre.
Je voulais vous faire entendre quelques notes d'un générique d'une série télé. Écoutez, vous allez certainement reconnaître. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend là ?
On entend là le générique de la superbe série Absolutely Fabulous avec la délicieuse Joanna Lumley en Patsy. Et ça,
Alors on a choisi ce générique là parce que ça raconte, ça rappelle une scène de votre livre et ça raconte surtout quelque chose de très fort sur votre couple, sur le couple que vous formez depuis près de 40 ans avec Marianne. Est-ce que vous pouvez nous raconter à quoi vous ramène ce générique d'Absolutely Fabulous ?
Eh bien, je trouvais ça une série super, qui là aussi brise tous les codes. Je ne sais pas si enfin, je ne vais pas trop raconter.
C'est très transgressif.
C'est très transgressif. Deux femmes, l'une a une agence de publicité, l'autre fait quelque chose dans la mode, mais ce qu'elles font surtout toutes les deux, c'est boire beaucoup trop de champagne, fumer beaucoup trop. Ils utilisent la cocaïne et tout. Mais c'est exagéré dans tout et c'est la fille qui est en fait le personnage le plus adulte de la série, la fille adolescente. Et un soir, on était invité pour une soirée années 60, années 70. Et là, les deux personnages principaux, Edina et Patsy. Bon, Edina est tout à fait genre hippie années 70. Ouais. Et Patsy, elle est plutôt deux pièces, talons aiguilles, chignon, plutôt années 60. Et donc, j'ai proposé à ma femme d'aller comme Patsy et Edina. Et bon, étant donné qu'Edina est la plus extravagante, c'est moi qui étais Edina. J'avais même une bouteille de champagne vide avec moi. J'avais emprunté une cigarette vraiment très féminine, très longue, parce que je ne fume pas, mais à une amie qui fumait. Et nous avons, parce qu'on devait faire près d'une heure de route, on a fait le trajet en femme, à deux. On a eu beaucoup de succès au feu rouge. Et j'ai été élu l'homme le mieux déguisé de la soirée.
Ce que raconte cette histoire, c'est que Marianne, quoi qu'il arrive, elle vous suit, elle vous emboîte le pas, même si, elle le dit, ça n'est pas toujours simple pour elle. Si on reprend le début, entre vous deux, vous la rencontrez en fac de lettres, vous tombez immédiatement amoureux l'un de l'autre, vous êtes convaincus, tous les deux, de vouloir passer votre vie ensemble, sauf qu'il y a ce secret. Entre vous, vous ne vous sentez plus bien du tout aujourd'hui en homme. À ce moment-là, vous ne vous sentez bien que quand vous êtes habillé en fille. Quand et comment est-ce que vous le dites à celle que vous allez épouser ?
Eh bien, je vais d'abord dire que on a eu deux petites pauses dans notre relation. Donc, j'aimais Marianne, mais je me rendais compte que ça allait être un obstacle. Et donc, à deux reprises, j'ai demandé d'interrompre. D'arrêter. Et puis, on a recommencé. Et puis un soir, j'avais vu que à nouveau à la télé néerlandaise, à l'époque, les Pays-Bas étaient en avance. Maintenant, c'est une autre histoire, mais à l'époque, ils étaient en avance pour des questions de société, etc. Et il y avait un programme, et à l'époque, c'était sur les travestis et transsexuels, parce que le mot transgenre était peut-être utilisé dans des publications scientifiques, mais n'était pas connu couramment.
Bien sûr.
Et donc, on parlait ou de travestis ou de transsexuels. Ouais. Et là, il y avait aussi une grande différence, parce qu'on disait, les travestis, eux, ils font ça par plaisir sexuel, et les transsexuels, eux, ils se sentent mal dans leur peau.
D'accord.
Mais de toute façon, bon, c'était déjà assez exceptionnel qu'il y ait une émission là-dessus. Ouais. Et j'ai demandé à Marianne de regarder avec moi, et puis je lui ai dit, voilà, moi, je suis aussi comme ça. Mais... Et j'ajoutais, avec le mariage, tout cela passera.
Qu'est-ce qu'elle vous dit à ce moment-là ?
Je pense qu'elle n'a pas dit grand-chose, mais que bon, elle a cru ce que je lui ai dit, c'est-à-dire que ça allait
que
passer.
Ça passerait, ouais.
Et puis alors là, on s'est mariés très rapidement. Et peut-être une toute petite parenthèse. Lors de mon coming out, il y a un an et demi, je suis passé à la télé néerlandaise. J'ai raconté l'histoire de cette émission d'il y a plus de 32 ans. Et j'ai eu le lendemain... un message d'une dame transgenre qui m'a dit « Beau, il y a 33 ans, j'étais en studio et j'étais une des femmes transgenres.
Incroyable.
Et je suis depuis lors, depuis plus de 30 ans, une femme heureuse. »
Incroyable. Alors vous vous mariez avec Marianne, sauf que ça ne passe pas, comme vous dites. Et en vertu d'un accord tacite, vous investissez le grenier
oui.
pour vous habiller en femme. Qu'est-ce que ces moments-là vous procurent comme sensation,
surtout,
comme sentiment?
Ben surtout, c'était un moment de détente et de certainement quand il y avait du stress, et dans mon métier il y en a beaucoup, ça me permettait de me relaxer. Je me sentais bien, je me sentais heureuse et d'ailleurs quand j'avais l'occasion de le faire, et à l'époque ce n'était pas tellement souvent, ça me donnait de l'énergie pour une semaine.
Oui.
Et j'étais vraiment sur des nuages roses.
Et vous en aviez besoin parce que il y a deux enfants qui naissent, hein. Michel, votre fille, Nicolas, votre fils. Vous êtes un père heureux, vous êtes un père comblé, vous êtes un journaliste reconnu, sauf que à ce moment-là, vous avez aussi des idées noires. Lesquelles, bon?
Je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais je crois que comme beaucoup de transgenres, on pense que si on parvient pas à combiner ses sentiments féminins et sa vie en homme, la vie n'a plus de sens. Et donc j'ai réfléchi très souvent à ces choses-là. Disons-le franchement, il y a des statistiques, c'est une étude d'il y a 4 ans, je pense, des statistiques où on dit que 80% des transgenres pensent au suicide et 40% font une tentative. Je n'ai pas de chiffres au sujet de ceux qui réussissent, réussissent, c'est un mauvais mot ici, mais je fais partie de ces 80%, je ne fais pas partie des 40%.
C'est-à-dire qu'il est question de survie, c'est quoi? C'est le mensonge qui pèse ou c'est bien au-delà? C'est le sentiment de n'être jamais soi?
C'est surtout ça, c'est surtout ça. C'est vraiment un sentiment de... on essaye de prendre un recul, de se voir, et là c'est vraiment de voir le personnage, dans mon cas masculin, et de se regarder de loin et de dire non mais ça va pas.
On est hors de son propre corps, quoi.
Oui,
hors de,
c'est vraiment
hors
ça.
De soi. Et puis le 1er juin 2015, Beau, vous tombez sur cette vidéo.
Every day, he always had a secret, from morning till night.
Tous les jours, du matin jusqu'au soir, je traînais mon secret. Du jour où cette couverture de Vanity Fair paraîtra, je serai libre. Cette couverture de Vanity Fair, c'est celle qui immortalise le coming out de Kathleen Jenner, auparavant connue sous le nom de Bruce Jenner, athlète olympique américain. Elle est une femme désormais et elle le dit haut et fort. Vous, qu'est-ce que ça vous fait, Beau?
Eh bien, je reconnais ça tout à fait. Et ce qui me frappe, c'est ce qu'elle dit. From morning to night, du matin jusque, non pas le soir, mais vraiment la nuit. Et moi, j'ai eu ça pendant des années. Je pensais à ça toute la journée, dans mon lit, quand j'étais réveillé le matin, quand j'allais me coucher avant de m'endormir. Et parfois, je n'endormais pas. Et je reconnais ça tout à fait. Et Kathleen Jenner a été la délivrance pour moi, puisque j'avais entre-temps découvert l'Internet, les films YouTube, mais il y avait des transgenres, des jeunes transgenres, mais c'était des personnes qui pouvaient être mes enfants, qui avaient 20 ans, 25 ans, tout au plus 30 ans.
Toute une vie devant eux dans...
Et voilà, et moi je me disais, j'ai raté le coche.
C'est trop tard.
C'est trop tard, j'aurais dû faire ça il y a 30 ans. Et puis, il y a là une personne connue, admirée du public, que je connaissais aussi quand c'était un athlète, qui a gagné la médaille d'or à Montréal en 76. Et cette personne a 10 ans de plus que moi. Et fait sa transition. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était possible.
Sauf qu'il se passe encore un petit peu de temps avant que vous-même vous sautiez le pas. Qu'est-ce qui vous retient à l'époque?
La peur de tout perdre. La peur de tout perdre. La peur de ne...
Votre travail, votre famille.
Le travail, la famille. Et cette peur, d'ailleurs, et certainement en ce qui concerne la famille, c'est resté jusqu'à mon coming out. Hein, puisque ma femme le savait depuis plus de 30 ans, les enfants pas. Et quand je l'ai raconté aux enfants, Marianne et moi, nous avions vraiment peur qu'ils claquent la porte et qu'on ne les revoit plus jamais. Donc c'est vraiment ça qui m'a... Et puis, mais c'est tellement insoutenable qu'à un moment, on se dit non, ça ne va plus, ça ne va plus. Il faut que je le fasse et si je ne le fais pas, c'est fini.
Alors, à ce point-là de votre vie, il y a un autre personnage clé qui va intervenir, une autre femme qui va vous aider à faire les derniers mètres, peut-être, avant de vous lancer. On va l'entendre, là, sur le plateau de la RTBF. C'était en septembre 2016.
Petra de Sutter, vous vouliez réagir à ce qu'on vient d'entendre.
Oui, je veux réagir parce qu'il y a quand même plusieurs éléments importants qui ont été touchés. Le lien entre la mère porteuse et la famille, les enfants, pour moi, c'est clair, c'est très important. Ça rentre dans l'altruisme. Vraiment, aider quelqu'un, moi, j'y crois, à l'altruisme.
Petra de Sutter, gynécologue, grande spécialiste de la fertilité, sénatrice verte. Ça, c'est pour le grand public, mais qui est-elle pour vous, bon, Petra de Sutter?
Ben, Petra de Sutter, c'est peut-être mon ultime modèle. Donc, c'est une femme qui est fantastique, qui est de renommée internationale au niveau fertilité. Elle est gynécologue. Si je me trompe, d'ailleurs, il y a pas mal de femmes, de couples de lesbiennes et de femmes célibataires qui vont chez elle pour leur PMA à Gand. Mais elle est née dans un corps d'homme aussi. Elle a fait sa transition, si je ne me trompe, en 2003. Ouais. Je crois que c'était peut-être une des premières à être connue en Flandre. Parce que jusqu'en 2014, elle n'était pas connue. Et puis elle s'est présentée sur la liste des Verts aux élections. Et c'est là que le grand public l'a découvert.
Alors vous, elle vous intrigue, puis vous l'admirez. Vous vous débrouillez pour la rencontrer en marge d'un reportage. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous dites, elle m'a donné les clés.
Oui.
Comment? Elle vous a dit quoi?
En fait, tout ça s'est passé très rapidement parce que je voulais attendre que mon caméraman soit sorti de la pièce. On avait fini l'interview. Il est sorti de la pièce. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai dit, Petra, ça va plus, je dois vous demander de l'aide. Je vais vous montrer des photos. J'ai montré des photos. J'ai dit, voilà, ça c'est moi et ça ne va plus. Et elle a dit, beau, ne m'en dis pas plus. Parce que j'ai dit que c'était beau au lieu de Baudouin. Mmh. Elle m'a dit, beau, ne m'en dis pas plus, je comprends tout, j'ai vécu tout cela. On va se revoir très bientôt, on va manger un morceau ensemble. Et puis on s'est embrassé et voilà. Et c'est là que vraiment tout a commencé et là ça n'a plus duré très longtemps.
Alors au contraire, ça a été très très vite. 14 tout petits mois entre rendez-vous chez le psychiatre, chez l'orthophoniste, l'endocrinologue, plusieurs chirurgies du visage et puis, pour finir, une chirurgie importante de réassignation. 14 mois, est-ce que c'est trop rapide?
Je ne pense pas que ce soit trop rapide vu que j'ai mis un demi-siècle à faire le parcours.
Mais pour vous, c'est très rapide.
Pour les proches, c'est de toute façon trop rapide. Ouais. Et je crois que même si ça avait été 2 ans ou 3 ans au lieu de 14 mois, ça aurait encore été rapide. Je crois que pour les proches, c'est toujours trop rapide. Ouais. C'est ce que j'entends d'autres transgenres et de leur entourage aussi. Mais pour moi, bon, c'était rapide. Et le seul avantage que j'ai eu, c'est que en rencontrant Petra de Sutter, qui était professeur à l'hôpital universitaire de Gand, mais pas dans la section sexologie et genre. Mmh. Mais évidemment, c'est des collègues à elle, c'est des médecins comme elle, et elle est elle-même transgenre, donc elle connaît tout le monde. Donc là, j'ai eu mon entrée, et au lieu de devoir attendre peut-être 6 mois ou 9 mois, j'ai eu mon premier rendez-vous plus rapidement. Mais après, ça a été vite parce que le psychiatre a dit,
mais après, tous les voyants étaient au vert.
Oui, il a dit après 2 consultations, alors que normalement il y en a entre 6 et 10, et après 2 consultations, elle a dit, pour moi c'est clair comme l'eau de roche, vous pouvez commencer les hormones. Ouais. Et puis ça a commencé, et 2 mois plus tard, je vivais en femme.
Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Et notamment dans vos rapports avec vos enfants et votre femme, ils vous écrivent des très belles lettres, qui sont des lettres d'amour formidables, parce qu'en même temps, ils ne nient pas la difficulté qui est la leur, qui est la vôtre. Comme vous le dites très justement, ils ont perdu un père, ils ont perdu un mari dans l'histoire. Ils vous aiment, ils vous soutiennent, ils sont là. Mais par exemple, ils vous disent, on a hâte que tu sois simplement beau et pas seulement le journaliste qui est une figure de la communauté transgenre, qui se bat pour les personnes transgenres. Vous en êtes où là, aujourd'hui, vous et eux?
Eh bien, je crois qu'avec la parution du livre en français, évidemment, il y a de nouveau...
C'est reparti.
Ça s'était calmé un petit peu. Je crois que le vœu de Marianne et des enfants... Et le vœu qu'ont également mes rédacteurs en chef et mes collègues, c'est très bien d'être un modèle. Et je crois que j'ai le devoir d'être un modèle. Mais évidemment, je reste tout d'abord une personne qui a une relation amoureuse, qui vit en couple. Et je reste une journaliste et j'espère que je suis une aussi bonne journaliste en femme. Et peut-être même deux fois meilleur qu'en homme, mais bien sûr c'est ça. En fait, j'aurais réussi Le jour où on ne voit plus l'aspect « Ah oui, c'est beau, la journaliste transgenre ».
Oui, mais évidemment, mais pour je sais vous avez que encore quelques avec... petites choses à faire.
Oui, voilà, il y a 28 ans que j'ai... plus de 28 ans que je suis passé à l'antenne en homme, donc je n'arriverai jamais à effacer tout ça. C'est différent
ça
quand on a 20 ans,
vous.
C'est la plus grande partie de ma vie. Bien sûr. Si jamais parce que je connais des jeunes transgenres qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont été garçons. Mais pourquoi? Parce que dans leur environnement professionnel, personne ne connaît leur passé. Mmh. Et donc là, c'est normal. Mais moi, je peux pas effacer ce passé.
C'est pour ça que se dégage à la lecture de votre livre quand même quelque chose de très doux, d'intelligent aussi. Il y a une grande intelligence humaine dans votre famille. Beau, je trouve en tout cas. C'est éminemment courageux. On voulait trouver une musique qui vous ressemble. En préparant cette émission, on a cherché, puis on s'est dit, ah bah tiens, on va mettre du piano. Allegro ma piano, et puis une batterie, comme ça, un peu jazzy, de l'énergie, ouais, de la douceur, aussi la voix profonde, quoique un peu voilée. Nora Jones, vous connaissez?
Oui.
Et ben la voilà. Every thought that I ignore, now the questions at my door. Where we begin to believe in this again? Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? Do you know how? To eat the words you wrote, I've said these words before. Failed this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside, chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of love? Can a nation built on blood find its way out of the mud? Will the people at the top lose their way enough to stop? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Nora Jones, Begin Again, c'est le titre de ce morceau, titre également du 7e album, déjà, de la chanteuse, autrice et pianiste américaine. Je savais qu'elle vous plairait. Beau Thierry Dupin signe, comme tous les vendredis, notre programmation musicale, dont vous retrouverez évidemment toutes les références sur franceinter.fr à la page de Passons Genre, ouais, à l'endroit même où vous pouvez nous podcaster. Comme quoi, la vie est bien faite, parfois.
Passons Genre. Julia Foïs.
Ici, cher Beau, on a à peu près tous les droits, et les autres ? On les prend, les codes, on joue avec le genre, on invente. La période y est propice, le masculin tangue, le féminin bouge, alors on y va. Chacun ici, de semaine en semaine, est venu déposer un objet qui, selon elle ou selon lui, racontait une façon unique d'être femme ou homme. S'il y avait quelque chose, un objet qui racontait au mieux votre féminin, ce serait quoi ?
Eh bien, je crois que l'ultime témoin ou l'ultime objet de la féminité, c'est peut-être tout simplement le rouge à lèvres. Avant d'entrer en studio, j'ai encore vite été refaire mon maquillage, même si je sais qu'il n'y a pas de caméra aujourd'hui. Ouais. Mais c'est ça, quoi. C'est la touche, c'est la cerise sur le gâteau. Et je ne pourrais pas m'en passer. Donc, s'il y a une chose qui vraiment concentre et définit tout ça, c'est le rouge à lèvres.
Vous avez dit, vous écrivez, qu'évidemment, devenir femme, enfin, quelqu'un d'autre l'avait dit aussi, une certaine Simone de Beauvoir, je sais pas si vous voyez qui c'est.
Oui, absolument.
Un petit peu. On ne naît pas femme, on le devient, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour tout le monde. Qui vous a appris ces gestes-là, par exemple, un geste aussi simple que celui de se maquiller?
Oh ben, c'est tout un apprentissage qui dure des années, hein. Donc, je me maquille depuis 40 ans. Non, 30 ans, ouais. Certainement. Non, peut-être, oui, 40, ça doit être 40. Mais au début, c'est des essais. Et là aussi, c'est comme les jeunes filles adolescentes. On essaye de tout, et puis on exagère, et puis ça réussit, et puis on recommence. Et alors là, moi, j'ai évidemment eu la chance inouïe de pouvoir être assisté par les meilleurs stylistes, maquilleurs et maquilleuses, coiffeurs et coiffeuses. Donc, vraiment, et là, ils sont tellement gentils pour moi. C'est d'ailleurs la section chez nous où je préfère passer mon temps. Enfin, je passe mon temps surtout à faire des reportages, mais je vais très régulièrement leur dire bonjour et ils ont toujours des conseils à me donner. Je leur demande beaucoup de choses et ça m'a appris énormément à ce sujet-là.
Parce que vous le dites, ce chemin, vous l'avez entamé, vous en avez fait 95%, mais de toute façon, on est toujours tous sur un chemin. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite dans ce chemin de femme, Beau?
Eh bien, je crois un peu ce que voudraient ma femme et mes enfants, c'est-à-dire...
Un peu de calme.
Un peu de calme, et que ce soit surtout que je sois tout simplement Beau, une femme, une journaliste, une femme heureuse qui vit en couple avec des enfants et de beaux enfants fantastiques, et peut-être dans quelques années des petits-enfants.
Donc quelque chose d'assez classique et d'assez normal finalement après toutes ces années de tumulte. Et on vous la souhaite. Bon, on vous souhaite évidemment aussi beaucoup, beaucoup de succès avec ce livre. Merci infiniment d'avoir inauguré cette collection d'entretiens avec nous, Beau Van Spielbeck. Comment je suis devenu beau, c'est le titre de votre livre, édité aux Arènes. On vous souhaite donc tout le meilleur pour la suite. Vous qui nous écoutez, vous restez bien sûr à l'antenne de France Inter, à l'écoute de France Inter, bien entendu, tout de suite. Vous avez rendez-vous avec Côté Club, rendez-vous 100% live, 100% musical de Laurent Goumard. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, toujours avec le même plaisir. Allez, je vous embrasse. Et Beau voulait dire quelque chose,
je voulais vous remercier, Julia, de m'avoir invité, et je remercie d'avance les auditeurs. J'espère qu'ils auront appris quelque chose.
Je pense qu'avec ce genre d'entretien, on finit toujours par faire un tout petit peu avancer les choses. Alors merci infiniment, Beau Van Spielbeck. Oui.